Mondial Sport, Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct pour une nouvelle édition de Mondial Sport sur RFI, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe. C'est une annonce qui aura à coup sûr une incidence sur le monde du sport dans les 10 prochaines années. L'ex-nageuse zimbabwéenne championne olympique Kirsty Coventry devient la première femme présidente du comité international olympique. Un mandat de 8 ans d'abord pour tenter d'inscrire l'olympisme dans l'avenir et relever les grands défis de demain. Comment œuvrer pour des Jeux olympiques verts et intégrant les effets du changement climatique? La géopolitique sera également au cœur du mandat de Coventry à l'heure où des conflits majeurs sévissent sur plusieurs régions du monde. Autre question, la parité et la place des femmes dans l'olympisme actuel où des cas d'hyperandrogénie ou de transidentité redéfinissent l'histoire des athlètes. Les valeurs de l'olympisme sont-elles encore d'actualité? Comment conserver les JO dans l'air du temps et attirer de nouvelles personnes? Nouvelle présidence du CIO, nouveau chapitre pour l'olympisme, c'est la grande question du jour dans Mondial Sport avec en prime ses cadeaux, l'interview exclusive de la nouvelle présidente du CIO par Christophe Diremzian depuis la Grèce. On profitera également de cette élection historique, première femme et première présidente issue du continent africain à prendre la tête du CIO pour évoquer les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar, prévus en 2026, l'un des premiers gros événements du mandat de Coventry, premier gros événement olympique en Afrique. Mondial Sport Olympique, à vos marques, c'est parti.
Dear friends and colleagues, the 144th IOC session has elected as the 10th president of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry.
Surprise à Costa Navarino, 49 voix récoltées dès le premier tour pour Kirsty Coventry, officiellement élue 10e présidente du Comité international olympique. Alors elle ne prendra ses fonctions que fin juin, mais sa victoire est historique. Première femme à occuper un tel poste et première présidente issue du continent africain. L'ancienne nageuse ne partait pas forcément favorite à en croire les médias de ce scrutin secret et assez opaque, on va le dire, mais son programme rassembleur a sans doute séduit les votants. La championne olympique sur 200 mètres d'eau en 2004 et 2008 va-t-elle mener une révolution au CIO ou alors assurer une certaine continuité? Mondial Sport a réuni ses experts pour analyser cette élection historique. Au téléphone, Sarah Daninde, consultante Mondial Sport, médaillée olympique. Bonjour Sarah.
Bonjour Sofiane, bonjour à tous sur le plateau.
Sarah Daninde qui sera accompagnée au téléphone de Patrick Clastre, historien du culturel et du politique, spécialiste également de l'olympisme, auteur de Les Jeux Olympiques de 1892 à 2024, une aventure mondiale aux éditions Pure. Bonjour Patrick Clastre.
Oui, bonjour, les presses universitaires de Rennes.
Voilà, exactement, vous précisez le sigle Pure en studio, je ne suis pas seul. Lui, on ne l'arrête plus, hein, le spécialiste de tous les sports, on se demande ce qu'il ne connaît pas. Karim Baldé, salut Karim.
Salut Sofiane, salut à toutes, salut à tous.
Même le CIO, vous maîtrisez
Évidemment, on est fan des Jeux Olympiques, donc on s'intéresse à ces élections au CIO.
Allez, je vous prends de court tout de suite. Kirsty Coventry, qu'est-ce que ça vous évoque, cette élection historique?
D'abord, j'ai les souvenirs de la nageuse, pour commencer, parce que j'ai connu le temps, notamment les Jeux de 2004, de 2008, où elle a performé dans les bassins. Ça, c'est le premier souvenir. Et le deuxième, la deuxième opinion que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est un changement. Quand on regarde sur le site du CIO la liste des présidents avant elle, effectivement, que des hommes, que des blancs et que des occidentaux, européens ou américains. Donc là, c'est un changement colossal de par même son élection. Est-ce qu'elle ira au-delà du symbole? Ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission.
Sarah Daninde, Kirsty Coventry, c'est un peu une révolution là où on ne l'attendait pas. Karim Baldé disait beaucoup d'Européens, d'hommes du coup, qui étaient présidents du CIO. C'est vrai que là, voir une femme africaine, en tout cas, pour l'instant, c'est une révolution.
C'est vrai que c'est fou. Hein. Honnêtement, moi, je n'y croyais pas, pour être honnête, parce qu'on est quand même dans un milieu avec toutes les valeurs que prend l'olympisme et qui est quand même un peu fermé sur quand même beaucoup de questions. Oui. Et effectivement, là, c'est la première femme, en plus, venant d'un pays d'Afrique. Alors, j'espère qu'on entre, parce qu'avec Thomas Barr, le président précédent, on avait l'impression de rentrer dans une nouvelle ère de l'olympisme. Alors, à voir si elle confirme, si c'est vraiment un changement ou juste... une question de une communication, de façade, quoi. Mais j'ai hâte, en tout cas, de voir ce qui va se passer.
Bon, en tout cas, il y a un message qui a été envoyé. Patrick Lastre, comment vous avez analysé cette élection? Je disais en préambule qu'on voyait peut-être d'autres favoris, à commencer par Sébastien Coe. Il y a un vrai message envoyé par les votants, envie de neuf, envie de voir d'autres profils diriger cette institution?
Elle représente à la fois une sorte de révolution culturelle, mais en même temps une continuité. Elle était la candidate annoncée du président Thomas Barr. Ça fait plusieurs années qu'il demandait à ce qu'une femme lui succède. Il a travaillé en ce sens à travers le recrutement des membres du CIO. Donc ça, c'était assez naturel. C'est ce que j'imaginais jusqu'au moment où a surgi Samaran Junior, le fils de l'ancien président, et puis bien sûr Sébastien Coe. Ils ont fait, bon, Samaran Junior fait encore un score honnête, mais Sébastien Coe, c'est assez catastrophique.
Oui, c'est 8 voix pour Sébastien Coe et Samaran Junior, 28 voix.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a quand même une vraie différence entre Kirsty Coventry et ses adversaires, en tout cas dans ce scrutin. Comme promis, chers auditeurs, on va écouter la première partie de l'interview exclusive RFI de Kirsty Coventry quelques heures après sa victoire. C'était au micro de Christophe Diremzian. Notre envoyé spécial lui a d'abord demandé au lendemain de son élection si elle avait conscience d'être devenue une des femmes les plus puissantes du monde.
Je ne sais pas si c'est encore bien ancré en moi. J'ai peut-être besoin de quelques jours de plus. Mais en fin de compte, ma campagne n'a jamais consisté à accéder à un rôle qui était considéré comme le plus puissant. L'important pour moi, c'était de rendre à ce mouvement qui a changé ma vie tout ce qu'il m'a donné.
Dans quel état d'esprit allez-vous entamer cette période de transition avec Thomas Barr?
Dans un état d'esprit très positif. Et je pense que vous savez, la croyance et la confiance que les membres du CIO ont placée en moi me permet d'avoir cette confiance. Il y a beaucoup à faire, donc il va vraiment s'agir de prendre notre temps dans les prochains mois pour cette transition avant la passation de pouvoir, pour ensuite vraiment démarrer sur les chapeaux de roue après le 23 juin.
Le monde du sport africain a accueilli votre élection avec espoir et enthousiasme pour le développement du sport sur le continent. Quel message aimeriez-vous faire passer à l'Afrique à cette occasion?
L'Union africaine en particulier, ainsi que les chefs d'État des pays africains ces dernières années, ont accordé beaucoup plus d'importance au rôle que le sport peut jouer dans la construction de communautés, dans la réduction des coûts des soins de santé. Et j'espère qu'on pourra exploiter ces idées et les faire progresser, tout en montrant que les athlètes sont des membres très importants de la société. Ils apportent l'inspiration, ils apportent l'espoir. Donc on va pouvoir prendre soin de nos athlètes, les soutenir, s'assurer qu'ils ont les bonnes infrastructures. Ce sont tous les messages et toutes les conversations que j'ai hâte d'avoir avec le continent africain sur la façon dont nous pouvons continuer à renforcer tous ces axes afin que nos athlètes puissent vivre, s'entraîner et réussir de chez eux.
Une fois en fonction en juin, quelles seraient vos principales priorités pour le CIO?
L'une des choses les plus importantes que j'ai entendues pendant cette campagne, c'est à quel point les membres et les parties prenantes veulent faire partie de cette transition. Donc pour moi, je pense que c'est un très bon moment pour faire une petite pause et vraiment analyser tout ce qui a été accompli jusqu'à présent, et tant de bonnes choses ont été accomplies. Et ensuite parler de la façon dont nous voulons poursuivre cet élan, et cela se fera collectivement.
Voilà la première partie de l'interview exclusive de Kirsty Coventry au micro de Christophe Diremzian il y a quelques heures du côté de la Grèce. Patrick Clastre, vous venez d'entendre les premiers mots, les premières réactions de Kirsty Coventry. On l'entend déjà, on sent qu'elle maîtrise déjà très bien son sujet, on sent qu'elle maîtrise déjà plutôt pas mal la fonction, mais il y a cette volonté de rassembler, c'est un petit peu le mot pour décrire la candidature, le programme de Kirsty Coventry, une volonté de rassembler.
Tout à fait, mais elle est élue seulement avec la moitié des voix, à peine un peu plus. Et donc elle va avoir fort à faire quand même avec ces 6 mâles dominants qui sont présents autour d'elle, qui représentent des fédérations internationales extrêmement puissantes. Et il y a aussi, effectivement, il y avait une demande des membres, la centaine de membres du CIO qui n'étaient plus véritablement associés aux décisions, puisque le président Thomas Barr travaillait essentiellement avec son cabinet et avec ses directeurs d'administration, de manière secondaire avec la commission exécutive. Donc il va falloir effectivement remettre tout le monde en mouvement. Elle a sûrement été élue avec les voix des femmes, un peu plus de 40% des électrices et puis des athlètes aussi.
Karim Baldé, une volonté peut-être de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, essayer de casser un petit peu la dynamique de ces dernières années au CIO. C'est vrai que déjà que le scrutin pour le commandé mortel n'est pas très, très lisible. On sait que c'est un bulletin secret, les téléphones sont interdits. Nous, on peut juste accéder aux chiffres. Coventry, c'est peut-être aussi la volonté de s'ouvrir et de marquer d'ouvrir un nouveau chapitre, je dirais, de l'olympisme dans le monde.
Oui, c'est sûr. À entendre ses premiers mots, on entend la grande prudence quand même, et c'est lié à sa fonction, évidemment. Elle n'est pas encore en poste. Il y aura 3 mois de transition avant qu'elle prenne la relève définitivement, on va dire, au mois de juin. Donc, beaucoup de prudence dans ses premiers mots qu'on vient d'entendre, beaucoup de politique également. Et de toute façon, le CIO, être président du CIO, présidente en l'occurrence, c'est un poste très politique. Donc, on sent qu'elle va faire une révolution plutôt tranquille, de ne pas être en mode bulldozer, de tâter
le terrain. Elle veut prendre son temps. Voilà. Elle ne sera présidente qu'en juin, donc elle a quelques mois pour endosser la posture de président.
C'est ça. Donc, du coup, prendre son temps, mettre pause, elle l'a dit. Donc, ça veut dire vraiment d'essayer d'analyser un maximum les différents enjeux. On parlera des défis un peu plus tard. Donc, dès sur le style, parce qu'on peut juger de ça déjà dans un premier temps, on sent peut-être un peu plus de douceur qui tranche avec ce qu'on avait connu. Alors, pas tant au niveau de Thomas Bach, même si, comme il vient d'être dit à l'instant, il était un peu dans son monde, en quelque sorte. Peut-être plus associer les membres du CIO, les fédérations internationales aussi, ça c'est important. Mais voilà, déjà au niveau du style, c'est déjà une première donnée importante de ce côté. On y va tranquillement, on ne va pas tout brusquer. Elle n'a pas un programme de ce qu'on a vu dans les différents programmes, parce qu'ils ont eu des feuilles de route à développer également. Ils ont fait des oraux également devant. Voilà, on sent pas énormément de pistes, on va dire, qui sont radicales. Le candidat japonais Watanabe, par exemple, était beaucoup plus radical dans sa façon de voir
les
choses.
C'est une révolution dans la continuité.
Voilà, donc là, c'est une révolution dans la continuité, exactement, pour l'instant.
Kirsty Coventry, Sarah, c'est une athlète olympique, championne olympique, on le disait, en 2004 et en 2008. D'athlète à athlète, tiens, Sarah, voir Coventry à la tête du CIO, ça doit toucher un petit peu plus.
Oui, totalement. En fait, c'est bien aussi de se dire que quelqu'un qui a été justement athlète, on n'a pas besoin d'être forcément athlète pour être président de fédération, mais ça a du sens parce que en tant qu'athlète, on connaît, en tant que présidente, là, elle connaît les défis aussi des athlètes. Elle sait ce qu'ils vivent, elle sait ce qu'il faut pour être médaille olympique. Elle a été 7 fois, je crois, c'est ça. Et du coup, oui, pour nous, en tant qu'athlète, je n'irai pas jusqu'à dire une fierté, mais en tout cas, on va se sentir, j'espère, bien entendu et compris ou comprise, justement, par rapport aux enjeux de nos carrières olympiques. Après, juste pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, révolution tranquille, j'entends, mais on est aussi dans une société qui bouge et là, pour le coup, elle a quand même énormément de défis sur lesquels elle est très attendue et pour lesquels elle risque de se faire, entre guillemets, pas tabasser, mais très fortement chahuter, pour le coup. Si on parle de l'hyper-androgénie, enfin, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a des sujets un peu forts, notamment avec des fédérations comme celle de la Fédération internationale de boxe, pour lesquelles il va falloir qu'elle soit déjà bien au taquet dès le départ, quoi.
Alors, c'est intéressant quand même, Sarah, ce que vous dites, parce que finalement, on pourrait rétorquer que les deux présidents précédents étaient aussi des athlètes. En l'occurrence, Thomas Bach, champion olympique d'escrime en 76, de mémoire. Et puis, Jacques Rogge également, qui avait été là dans les années 2010 plutôt, et qui, lui, est ancien joueur de rugby et qui a fait les Jeux olympiques, notamment en aviron. Donc, là, ce qui change fondamentalement avec Coventry, c'est qu'elle incarne une nouvelle génération. Parce que Thomas Bach aussi, on peut dire, lui aussi a été athlète. Mais là, elle n'a que 41 ans. Oui. Voilà, c'est quand même la jeunesse qui arrive au pouvoir. Et elle a été athlète récemment, donc dans les années 90-2000.
On a encore des souvenirs assez concrets.
Elle n'est pas éloignée, en fait, de sa carrière. Et du coup, le fait aussi d'être jeune, effectivement, on peut aussi s'identifier. Parce que mine de rien, je pense qu'elle renvoie aussi... Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, par exemple... Il y a encore pas longtemps, on avait que 2 femmes présidentes de fédération internationale, présidentes de fédération olympique. Et ça va aussi être, un signal aussi pour dire aux femmes que vous pouvez aussi être beaucoup plus impliquées dans des directions de fédération ou de comité, des choses de genre. Et le fait d'être si proche de sa carrière, je pense et j'espère que justement, même si son poste est un poste politique, qu'elle s'éloignera pas trop justement des décisions à prendre en faveur des athlètes, si je peux dire.
Et ben on va écouter.
J'ai un peu perdu dans mon propos.
Non, on a tout compris, Sarah. On va écouter plusieurs acteurs du sport africain, tiens, qui ont tenu à réagir sur RFI quant à cette élection historique. Dans l'ordre, Christian Matata du comité olympique de la RDC, Ruth Bagby, la taekwondoiste ivoirienne, et puis Françoise Bongo, la double championne olympique avec le Cameroun.
C'est une fierté de voir l'une de nôtres occuper un poste aussi important et prestigieux pour qu'aujourd'hui la voix des Africains puisse aussi être valablement défendue au niveau des instances supérieures du sport. C'est quelqu'un qui connaît les difficultés de nous Africains en termes de développement, en termes d'infrastructure. Donc nous osons croire qu'avec sa présence au niveau du Comité olympique international, la voix des Africains pourra valablement être défendue.
En tant qu'athlète féminine, nous pouvons espérer beaucoup de cette élection historique. Kirsty Conventry a toujours été une fervente défenseure du sport féminin et de l'égalité des chances. Son parcours en tant qu'athlète de haut niveau lui a permis de comprendre les réalités et les défis que rencontrent les femmes dans le sport. Je pense que nous pouvons donc espérer qu'elle portera des actions concrètes pour renforcer la place des femmes dans toutes les sphères du mouvement olympique.
J'ai accueilli l'élection de Kirsty Conventry à la tête du CIO avec une très, très grande joie, une très grande joie, une grande première pour une femme, une dame, une championne à la tête du Comité international olympique. Elle est à féliciter, tout simplement parce que c'est une grande première. Ça me donne une joie particulière parce que ça suscite de l'espoir pour les champions olympiques africains, pour les championnes olympiques africaines, pour les championnes olympiques en général dans le monde. Une autre face, une autre figure d'attouche féminine pour apporter un plus à ce mouvement olympique. En tout cas, pour moi, mon espoir, c'est que durant son mandat, que les championnes olympiques puissent trouver une place dans le mouvement international olympique, que les championnes olympiques ne soient plus abandonnées, ne soient plus, ils doivent vraiment être impliqués. Je le dis tout simplement parce que moi, je le vis. Il y en a peut-être et certainement d'autres championnes qui le vivent, qui veulent investir au mouvement olympique. Ils ne sont pas du tout impliqués. Donc, félicitations à Kirsty Conventry pour sa nomination et j'espère une autre bouffée d'oxygène dans le mouvement international olympique.
C'est très fort hein, ce que dit Françoise Bongo, Karim Baldé. On voit qu'elle elle a beaucoup d'espoir hein, quant à l'élection de Kirsty Conventry, les femmes, la parité. Et également aussi plus de reconnaissance dans les fédérations nationales et internationales. C'est aussi sur ça que va devoir s'atteler Kirsty Conventry.
Oui, à peine 8 à 10% des présidents de fédérations internationales sont des femmes. Donc effectivement, il y a des efforts à faire. Et sur le côté Afrique également, parce que l'Afrique, on va avoir les JOJ à Dakar, les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Mais également, ça va être de savoir si l'Afrique pourra un jour organiser les Jeux Olympiques. Ça, c'est la vraie question. On va voir si Coventry, de par sa présence, va pousser ce mouvement-là. On sait que l'Égypte, le Caire notamment, veut être candidat pour les éditions après, je crois, 2036-2040.
Bon, parmi les grands défis, il y a également Donald Trump. Vous l'avez peut-être vu, chers amis qui cherchent à exclure les personnes transgenres des compétitions sportives. Il avait signé il y a quelques semaines un décret visant à couper les subventions aux écoles qui permettraient aux élèves transgenres de concourir en compétition. Des positions qui inquiètent, on imagine, au niveau international. Ce sera un dossier primordial pour Kirsty Conventry. Mais s'inquiète également en France le reportage de Solène Ravenel.
Alexia Sérinis joue au rugby dans le club de Mons à Pau, dans le sud-ouest de la France. Elle est aujourd'hui la seule joueuse transgenre à évoluer dans l'élite du rugby français. Un sport qu'elle découvre à 14 ans au collège. Et si elle se passionne pour la pratique, elle se sent rapidement en décalage.
C'était un sport qui me permettait de rester dans les rails de la société.
C'est suite à de nombreuses blessures qu'elle arrête le rugby et réussit à faire son coming out. Mais chasser le naturel et la passion du rugby revient au galop. Après sa transition, Alexia Serenis décide de reprendre une licence dans l'équipe féminine de sa ville.
Lorsque j'ai appelé le secrétariat pour savoir ce qu'il me fallait comme papier, j'étais tombé sur Janine, qui était déjà présente quand je jouais en tant que garçon. Quand elle m'a reconnu, elle m'a dit « Ah, il me faut juste ta carte d'identité et ta carte vitale ». Les encadrements, le coach, qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont accueilli, qui m'ont accepté, c'était un non-sujet.
Aujourd'hui, Alexia Serenis se sent bien dans sa pratique sportive, mais les décisions de Donald Trump l'inquiètent.
Il priverait de sport tout court, mais même en loisir, on aurait peut-être que je vais trop loin, mais je suis sûr qu'il nous exclurait totalement de la société si on les entend parler.
Jean-François Toussaint est professeur de physiologie à l'Université Paris-Cité et co-président du comité ayant rédigé un rapport sur la transidentité et le sport de haut niveau en France. Il s'interroge sur la façon dont le sport mondial réagira aux annonces du président américain, qui a indiqué qu'il ne délivrerait pas de visa si des athlètes transgenres étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Los Angeles.
Ce que l'on va voir, c'est l'organisation des grandes compétitions internationales qualificatives aux Jeux, et puis les Jeux eux-mêmes, puisqu'ils vont avoir lieu à Los Angeles, et qu'on va devoir assister maintenant à des alignements ou pas de ce que sont les grandes fédérations internationales sur ce point.
Il revient sur le débat central autour de l'inclusion des athlètes transgenres dans le sport, celui des avantages de performance persistants ou non après une transition. Selon lui, les réflexions doivent être menées au cas par cas et basées sur des indicateurs de performance.
Certaines disciplines dans lesquelles l'avantage est totalement égalisé par la technologie, c'est par exemple le cas de la voile transocéanique. C'est pas la même chose lorsque l'on parle de sport de combat ou même simplement de sport dans lesquels les gabarits vont être marqués. Il est nécessaire de se poser la question autour de ce qu'ont été les descriptions scientifiques auparavant disant il n'y a pas ou il y a persistance de l'avantage et de savoir comment il faut le mesurer à l'avenir pour pouvoir ensuite prendre des décisions réglementaires différentes.
Une approche éloignée de l'exclusion totale des athlètes transgenres voulue par Donald Trump, qui semble cependant compliquée à mettre en place tant le clivage sur la question est important.
Le reportage de Solène Ravenel, la place du sport féminin, la représentation des athlètes féminines dans la sphère publique, ça sera un pilier du programme de Kirsty Coventry. Sarah Danand, plus spécifiquement sur le cas des athlètes transgenres ou concernés par une différence de développement sexuel. Vous venez d'entendre le reportage de notre journaliste Solène Ravenel. On entend, on voit qu'aux États-Unis, ça crispe énormément, voire beaucoup plus. Il va falloir que le CIO s'empare de la question et soit clair dans ses mesures, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu deux poids, deux mesures. Chaque fédération va un petit peu décider.
Ouais, c'est vrai qu'actuellement, je crois que c'est déjà le cas, justement, chaque fédération décide un peu de ses propres règles. Donc, effectivement, le CIO va falloir vraiment clarifier au maximum leur position là-dessus, quelle que soit la fédération et le pays, d'ailleurs, qui peut recevoir les prochains Jeux Olympiques, d'ailleurs. Garantir aussi la sécurité, en fait, très certainement l'équité pour ces athlètes-là, parce que quand je dis sécurité, il y a déjà eu beaucoup de débordements jusqu'à agresser même physiquement certains athlètes. Donc, va falloir vraiment être vigilant sur ça. Harmoniser les règlements entre les disciplines. Ça va être... je ne sais pas exactement ce qu'ils vont prendre comme décision là-dessus. Et puis surtout, s'appuyer sur les données scientifiques. On sait, par exemple, l'hyperandrogynie, qui est un sujet aussi qui est très présent, notamment avec Imad Relief, là, avec la Fédération internationale de boxe, qui a quand même participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, alors que la Fédération internationale de boxe, elle, l'avait interdit l'accès aux championnats du monde précédents. Sur justement des preuves scientifiques, on sait qu'il n'y a pas de moyen de, il n'y a pas de raison justement de justifier ces exclusions-là. Ben, il va falloir, ben, pour les questions trans aussi, des athlètes trans, ben, s'appuyer notamment sur le scientifique, justement sur les données scientifiques indépendantes. D'ailleurs, ce sera important aussi de tenir compte de ça pour avancer sur le sujet, quoi. Patrick... Ça va être épineux.
Ah oui, c'est clair. Patrick Lastre, les prochains Jeux Olympiques se déroulent, tiens donc, aux États-Unis, oui. Où ça semble, en tout cas sur ces athlètes spécifiques, ça semble pour l'instant poser un petit problème. Ça, c'est vraiment le premier dossier de Kirsty Coventry à gérer lorsqu'elle prendra les rênes du CIO.
Je voudrais revenir d'abord sur son élection, le fait qu'elle soit un role model, hein, c'est-à-dire qu'un exemple à suivre dans un monde extrêmement masculin. Donc c'est ça en fait la vraie révolution. Il n'y a que deux présidentes en France Fédération, il n'y en a que deux dans les fédérations internationales. Elles sont très peu représentées dans les mondes africains, dans les Sud en général. C'est là que le travail va se faire et on va pouvoir s'appuyer sur Kirsty Coventry. Après, la question des athlètes à sexe indéterminé, parce que c'est une réalité aussi. Et pour ce qui est des athlètes transgenres, ce sont des situations humaines. Il faut d'abord avoir beaucoup d'humanité pour ces athlètes et leur faire la place qu'ils méritent. Le CIO est dans une tradition... Où de toute façon il doit en laisser la décision à chacune des fédérations internationales. Le CIO a quand même rendu des décisions très claires en la matière. Il accepte les athlètes transgenres à certaines conditions, donc d'une transition de plusieurs années, la question ensuite des taux de testostérone, voilà, qui doivent être limités par médicamentation. Mais la porte est ouverte, alors qu'en matière d'athlétisme, par exemple, Sébastien Coe a fermé la porte. Donc oui, il y aura un bras de fer sur cette question avec Donald Trump. Mais de mon point de vue, en dehors de ces cas très particuliers à traiter vraiment individuellement, avec humanité, l'enjeu véritable, c'est la situation que les États-Unis vont faire peser sur le mouvement olympique et les fédérations internationales dans un pays où les libertariens sont au pouvoir maintenant, la régulation des fédérations internationales et du CIO et aussi la régulation de l'Agence mondiale antidopage sont des forteresses à abattre pour Donald Trump et ses amis. Regardez par exemple en matière de lutte antidopage, Donald Trump Jr. a financé avec plusieurs millions de dollars les Enhanced Games, c'est-à-dire des jeux qui sont déroulés en Australie où le dopage est autorisé. Donc là, c'est ça le bras de fer. Les États-Unis voudront sûrement projeter à l'échelle du monde leur système de ligue professionnelle à l'exclusion des tournois de type pyramidal comme on les connaît en Europe et dans le reste du monde. Donc là, le bras de fer pour Kirsty Coventry va être terrible.
Il va y avoir un jeu d'influence. Mondial Sport à l'heure olympique spéciale élection au CIO. La victoire d'une femme africaine, Kirsty Coventry. On va remercier Patrick Lastre de nous avoir accompagné sur cette première partie d'émission. Excellente fin de journée à vous. Merci beaucoup pour votre participation. Tout de suite, on ne perd pas de temps. Beaucoup. Place à l'actualité la plus actuelle.
Mondial Sport.
Et un point actuel un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on va ne parler que de boxe. Cette triste nouvelle tombée plus tôt dans la journée, cette nuit, le décès d'une légende, George Foreman, à l'âge de 76 ans. Avant d'avoir votre avis, Karim Baldé, Sarah Danint, encore une fois, d'un athlète à un autre, quel souvenir vous avez-vous de George Foreman, une légende dans son sport, mais évidemment une légende qui a rayonné au-delà de la boxe? Ah, Sarah Danint qui nous entend plus. Alors on va aller directement sur.
Ah pardon.
Ah, revoilà Sarah Danint.
Bravo. Voilà.
Qui ne voulait pas répondre à ma question.
Exactement.
Non, pardon.
Il n'y a pas de problème.
Un gros bug. Souvenir, une puissance assez, j'irais un peu brute quand même, réputée pour ses coups un peu dévasteurs et avec quelques KO quand même.
Ah oui.
Ouais, une défense assez rigide, à l'inverse, ouais, un petit peu quand même, contrairement à Ali, qui avait un style un peu plus, Mohamed Ali, pardon, qui avait un style un peu plus statique, basé aussi sur la force plus que la vitesse, et puis avec des combats aussi légendaires. Donc, oui, c'est toujours un peu bouleversant d'entendre qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, qui partent, quoi, les disparitions. Voilà.
Et des légendes qu'on pleure, Karim Baldé. Comment vous avez connu, vous, George Foreman, puisque vous n'étiez pas né? Alors, c'est un secret que je ne trahis pas, ce secret aux auditeurs. Vous n'étiez pas né lors du combat avec Mohamed Ali en Afrique, vous n'y étiez pas?
Non, le Rumble in the Jungle, non, je n'y étais pas. En revanche, moi, le souvenir que j'ai de George Foreman, donc c'est plus récent, c'était les pubs qu'il faisait à la télé où il disait « il met KO la Grèce ». Et c'est vrai que, certes, c'est pour faire sourire, mais c'est vrai qu'il avait ce côté aussi entrepreneur qu'il a eu donc bien après sa carrière, justement. Et donc, j'ai connu d'abord en mode homme publicitaire et après, je me suis renseigné sur à quel point il était légendaire. Et la chose à souligner, c'est qu'il a perdu contre Ali ce fameux combat Rumble in the Jungle à Kinshasa, mais en revanche, il a été champion du monde très tardivement, à 45 ans.
45 ans, ouais.
Et puis, c'est un symbole de résilience. C'est ça qui est à mettre en avant. Et voilà pourquoi c'est une légende et qu'on est triste d'apprendre sa disparition.
J'en profite pour vous dire que demain, Mondial Sport, émission spéciale avec Hugo Moissonnier autour du décès de cette légende, George Foreman. Voilà pour le point actu. Merci beaucoup, Sarah Danint, pour votre participation à cette émission autour de Kirsty Coventry. On y retourne, Kirsty Coventry, et les grands défis qui s'annoncent pour les CIO dans les prochaines années. Oui, parce que 8 ans de mandat pour Kirsty Coventry et des défis à l'appel. Il n'y a pas que l'organisation des JO 2028 à Los Angeles ou 2032 du côté de Brisbane en Australie. Il y a des problématiques plus techniques, géopolitiques par exemple, à l'heure où les conflits se multiplient dans le monde. Karim Baldé toujours avec nous en studio, mais pour en parler plus en détail, on accueille au téléphone Kevin Bernardi, le fondateur de Sport et Société. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Alors, évidemment, dans les premiers défis là, qu'on a en tête, c'est le cas des athlètes russes et biélorusses. En ce moment, c'est toujours sous bannière neutre. On imagine que les prochaines problématiques, les prochaines questions qui vont se poser autour du CIO, c'est de savoir si on réintègre les athlètes russes avec le drapeau et l'hymne national.
Tout à fait, c'est vraiment une problématique qui se posait déjà avant les Jeux de Paris. Là, la situation géopolitique actuelle va inévitablement peser sur le choix à venir du CIO, puisqu'on va certainement aller sur une réintégration progressive, peut-être pas au moment des Jeux de Milan-Cortina, mais pour ceux de Los Angeles, on sera certainement sur une réintégration. Mais c'est vrai que ça fait partie des grosses questions et des grands défis qui vont se poser à la nouvelle gouvernance.
Alors qu'on a noté que la Russie a réagi, Karim Baldé, plutôt heureuse de cette élection. C'est une petite pression mise à Kirsty Coventry. Je vous vois hocher de la tête.
Oui, complètement. La déclaration de félicitations venue du Kremlin et de Vladimir Poutine ne masque à peine finalement cette volonté de mettre une petite pression pour voir les Russes réintégrer le concert des nations sportives. Ce qui est assez drôle parce que les Russes, depuis le conflit en Ukraine, voulaient plutôt créer ses propres Jeux Olympiques, etc. Donc ça paraît un peu contradictoire, mais ils veulent jouer sur les deux tableaux. Après, la vraie question, parce qu'on oublie souvent, on parle de la guerre en Ukraine, mais la raison première de la suspension de la Russie, ce sont les cas de dopage d'abord. Et la vraie question, c'est de savoir si ça s'est réglé ou pas avant de penser à une réintégration.
Gros scandale de dopage ces dernières années.
Oui, et à commencer par l'athlétisme, mais après dans plein d'autres sports, dans le ski de fond en particulier. Donc déjà, il va falloir régler cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont suffisamment clean au niveau du système d'État russe qui a été vilipendé par des documentaires et ça a été bien documenté par pas mal de journaux? Est-ce que ça s'est réglé ou pas?
Je sens que vous avez envie d'entendre la réponse de Kirsty Coventry, parce que évidemment Christophe Diremzian, qui est au four et au moulin en Grèce lorsqu'on parle de Jeux Olympiques et de CIO, lui a évidemment posé la question dans cette interview exclusive avec Kirsty Coventry. On écoute la deuxième partie.
Que souhaitez-vous mettre en place pour les athlètes en Afrique afin de garantir que ces athlètes puissent participer aux Jeux Olympiques?
Nous avons lancé notre agenda sur l'intelligence artificielle l'année dernière et pour moi, c'est un élément vraiment vital que nous pouvons souvent énormément exploiter. Il y a d'incroyables recommandations sur lesquelles nous aimerions travailler dans le cadre de cet agenda et l'une d'elles est de pouvoir atteindre les régions qui n'ont pas accès à des programmes spécifiques d'entraînement ou de repérage des talents. Comment pouvons-nous les identifier? Grâce à la technologie actuelle, nous allons pouvoir le faire. Ensuite, il s'agira de passer à l'étape suivante pour dire comment nous pouvons tirer parti d'autres technologies pour mettre ces athlètes en relation avec les meilleurs entraîneurs, les meilleurs nutritionnistes et les meilleurs médecins du monde afin qu'ils puissent s'entraîner chez eux.
La Russie a salué votre réélection en disant qu'elle serait positive et elle espère le retour des athlètes russes un jour aux Jeux Olympiques. Sur quel principe accepteriez-vous de dialoguer avec elle?
C'est un sujet pour lequel nous devons tous nous asseoir autour d'une table. J'ai parlé il y a quelques jours de la façon dont nous allions protéger et soutenir les athlètes de toutes les zones de conflit. Il y a de plus en plus de conflits dans le monde et en particulier sur mon continent. Donc la problématique n'est pas près de disparaître.
Je veux vraiment mettre en place un groupe de travail pour élaborer un cadre et des politiques directrices qui peuvent nous aider en tant que mouvement à trouver et identifier des moyens de protéger et de soutenir les athlètes.
Ce qu'on comprend, c'est qu'un groupe de travail sera mis en place pour traiter de ces cas spécifiques d'athlètes russes et biélorusses. L'autre gros défi, Karim Baldé, on parlait de géopolitique, mais aussi l'environnement. Faire des jeux verts, faire des jeux qui ont le moins d'impact environnemental possible. Alors, comment on pourrait faire dans les prochaines années pour que Kirsty Coventry ne se retrouve pas sous le feu des critiques? Est-ce qu'il faudrait du coup capitaliser sur des villes qui ont déjà des infrastructures présentes pour éviter l'impact environnemental? Ou alors, au nom de l'universalité et au nom des Jeux Olympiques, toujours découvrir de nouvelles villes parce que finalement le CIO c'est aussi une organisation qui est mondiale?
Pour moi, il faut varier, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut alterner des villes ayant beaucoup d'infrastructures, comme Paris par exemple, hein, c'était le cas lors des Jeux Olympiques l'année dernière, et des villes qui auraient beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire en termes d'investissement sur les infrastructures sportives, mais aussi sur les routes parfois, sur les capacités aéroportuaires, etc., etc., hôtelières aussi. Donc pour moi, l'alternance est la clé, mais ce qu'il faudrait, c'est que pour ces pays-là, qui veulent accéder aux Jeux mais qui n'ont pas forcément les moyens, c'est de leur donner un horizon à, pourquoi pas, 10, 15, 20, 25 ans, au lieu d'avoir seulement 8 ans, c'est parfois court. Donc pour moi, l'alternance est la clé pour à la fois qu'il y ait des jeux responsables d'un point de vue construction et en même temps d'avoir des villes qui peuvent se projeter et créer des villes de demain, comme c'était le cas de Barcelone dans les années 90 oui. Et d'autres villes.
Parce que Kevin Bernardi, les contraintes environnementales vont être de plus en plus compliquées à gérer, évidemment, à mesure que le temps passe. Est-ce que concrètement, on pourrait voir d'ici 15-20 ans quand même des Jeux Olympiques en Inde ou des Jeux Olympiques? Alors on a déjà les Jeux Olympiques de la jeunesse sur le continent africain qui arrivent en 2026, mais de voir des Jeux Olympiques également en Afrique?
Alors, c'est une perspective qui est tout à fait envisageable, d'autant plus avec les réformes qui ont été engagées sous le second mandat, en particulier de Thomas Barr, avec la nouvelle norme, le principe de la nouvelle norme, donc avec une refonte complète du processus de candidature qui permet finalement aujourd'hui aux villes, aux territoires de pouvoir candidater. On n'est plus d'ailleurs sur une limite de ville, mais on peut envisager une candidature à l'échelle régionale. C'est ce qu'on a vu par exemple avec l'Australie, avec Brisbane et Queensland. Donc ça ouvre des portes, des perspectives. Il y a aussi le fait que cette nouvelle mouture du processus de candidature avec la phase de dialogue continue, puis la phase de dialogue ciblée. Et finalement, on invite, le CIO invite les territoires à candidater sans finalement avoir de perspective dans le sens timing, sans avoir une édition délimitée par avance. Le CIO discute avec ces territoires, voit les opportunités à court, moyen ou long terme. Et en fonction des intérêts des uns des autres, c'est là que le CIO va dire, bon, voilà, il est plus judicieux pour vous de candidater pour la prochaine édition, pour l'édition suivante, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs aujourd'hui le CIO qui, il y a quelques mois déjà, Thomas Barr en faisait le propos en disant, on a aujourd'hui un nombre de candidats à deux chiffres, donc sans préciser évidemment lesquels, en disant, voilà, pour les prochaines éditions des Jeux d'été, donc que ce soit 2036, 2040 et même 2044, hein, il y en a déjà qui sont possiblement alignés dessus, en disant, voilà, il y a un regain d'intérêt finalement des territoires pour l'organisation des Jeux grâce à cette nouvelle opportunité qui est donnée, ce nouveau processus qui est donné, qui est plus souple, qui permet aussi, ça c'est un point qui est important aussi, qui permet aussi aux territoires de ne pas se dévoiler publiquement tant qu'ils ne le souhaitent pas, parce que l'ancien processus, c'était finalement dès la ligne de départ, les villes étaient connues de tout le monde. Ça permettait aussi paradoxalement d'avoir des oppositions plus ou moins fortes qui pouvaient émerger au sein de ces territoires. Aujourd'hui, tant que le CIO ne décide pas d'entrer en dialogue ciblé avec les territoires, libre à eux finalement de dire on est candidat ou pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet à ces territoires-là d'avancer, de travailler, de dialoguer avec le CIO comme jamais auparavant finalement. Et c'est pour ça aussi qu'on a des territoires qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ou ne voulaient pas candidater. Et aujourd'hui, on a cette possibilité d'envisager, voilà, pour 2036 par exemple l'Inde, même s'il y a des défis assez importants encore à relever, on peut aussi penser pour 2040 ou 2044 l'Afrique. On sait que l'Afrique du Sud est intéressée. Oui. On sait que l'Égypte est intéressée avec notamment l'ambition du président Sisi autour de la nouvelle capitale qui est en cours de construction. On peut aussi penser que le Maroc pourrait à un moment donné se positionner, notamment avec là la perspective de la Coupe du Monde de foot. Donc ça peut servir aussi de tremplin pour envisager une candidature par la suite. Et évidemment, l'élection là de Kexi Coventry peut aussi avoir un impact sur les pays africains qui pourraient se dire « Voilà, on a une présidente qui est issue de notre continent, qui est à la présidence du CIO, ça peut être intéressant. » Alors après, c'est aussi à double tranchant parce que, par exemple, Thomas Bach a eu deux mandats à la tête du CIO. Il est allemand. L'Allemagne a plusieurs fois tenté d'être candidate. Elle n'a jamais réussi à aller au bout et à décrocher les Jeux, du moins sous sa présidence. Donc, voilà, c'est aussi toute la complexité.
La complexité du poste, on imagine, de président du CIO. Mondial Sport, on continue de débattre sur les grands défis de l'olympisme. On va faire aussi un petit passage, un petit coucou aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026, avant de la musique du Zimbabwe, tiens, à l'honneur, Ja Preza, avec Sharma Girl et son titre Dali Wangu. Dali Wangu, musique zimbabwéenne de Ja Preza et Sharma Girl, Zimbabwe, parce que Kexi Coventry vient du Zimbabwe, la nouvelle présidente du CIO, qui aura comme aussi l'un de ses premiers défis et premiers défis d'organisation, les Jeux Olympiques de la jeunesse du côté de Dakar en 2026.
Dakar, ta culture, ton histoire brille de mille feux, en plein dans les mille. Dakar est dans le mille. Le compte à rebours est lancé. Des milliers d'heures pour compter mille jours. Pour que les frontières s'effacent, l'espoir scintille et que les cœurs battent au rythme d'une famille.
Les JOJ de Dakar 2026, du 30 octobre au 13 novembre 2026, le premier événement d'ailleurs olympique sur le continent. Un test grandeur nature. Mondial Sport a d'ailleurs pu joindre, quelques instants avant l'émission, M. Ibrahima Ouad, le coordinateur général des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Bonjour Ibrahima Ouad.
Bonjour.
J'aimerais avoir votre réaction à la suite de l'élection de Kexi Coventry à la tête du CIO. C'est la première femme qui devient présidente de cette instance. En plus, elle vient du continent africain. C'est un fort symbole pour l'olympisme mondial et l'olympisme africain.
C'est plus qu'un symbole. C'est vraiment, comme je dirais, la consécration à ce niveau de l'olympisme. Avoir pour la première fois une femme, c'est déjà quelque chose de fantastique. Qui plus est, Kexi est une Africaine originaire du Zimbabwe, de nationalité zimbabwéenne, donc incarnation de tout ce qu'est l'olympisme africain. Je voudrais ajouter que Kexi Coventry est quelqu'un de connu de Dakar, parce qu'elle est, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore présidente de la commission de coordination des Jeux Olympiques de Dakar 2026, des JOJ Dakar 2026. Donc quelqu'un que nous connaissons très très bien, qui a été aux côtés de Dakar pendant toutes ces années. Pour nous, c'est quelque chose qui nous réconforte et qui je pense, hein, qui va poser les germes d'une plus grande prise en charge que ça ne l'a été jusqu'ici encore de ce premier événement olympique sur le continent africain.
Puisqu'il y a dans un peu plus de 18 mois les Jeux Olympiques de la jeunesse, Ibrahim Awad, on va en parler évidemment, en faire un petit point de parcours. Alors on a encore un peu de temps avant le lancement de cette belle compétition. Vous prévoyez près de 3000 athlètes, 2700 athlètes qui sont prévus, la plupart dans les sports olympiques qu'on connaît, mais il y aura aussi des disciplines, des spécificités qui ne sont pas au programme des Jeux Olympiques, des grands Jeux Olympiques.
Avec le Comité international olympique, on a beaucoup insisté sur la nécessité de tenir compte des spécificités des Jeux dans les localités où ça se passe. Si je prends le cas de Los Angeles, le programme sportif a été adapté sur ce qui fait réalité et sens pour les États-Unis. Ça a été le cas dans le cas du projet de Dakar. On a mis au programme d'abord des sports urbains, puisqu'on parle de Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais on est allé plus loin en mettant de façon spécifique des projets qui parlent à l'Afrique, qui parlent au Sénégal, comme la lutte de plage, qu'on appelle communément le beach wrestling, à la place de la lutte olympique. Des sports de plage comme le beach handball, le beach volley. Mais tout ça pour montrer que les JOJ sont dans leur logique. Les JOJ de Dakar vont être dans leur logique qui consiste à parler, à montrer ce qui parle à la jeunesse africaine, à la jeunesse sénégalaise. Et c'est autant de spécificités qui font sens dans le cadre du projet de Dakar.
Oui, vous l'avez répété plusieurs fois, Dakar accueille le premier événement olympique sur le continent africain avec l'élection maintenant de Kirsty Coventry à la tête du CEO Ibrahim Awad. Est-ce que l'accueil de ces JOJ vous met un petit peu plus de pression qu'auparavant, puisque on imagine que maintenant, avec Kirsty Coventry, des Jeux Olympiques en Afrique dans les prochaines années, ça devient très 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 concret.
De toute façon, bien avant, nous n'avions pas le choix, d'autre choix que de réussir et de bien réussir. Aujourd'hui, avec l'honneur que l'Olympisme mondial a fait à la première femme africaine et la première africaine pour diriger cette instance, je dois être franc et dire... Oui, effectivement, ça augmente un peu de pression, mais une belle pression, une pression positive qui nous met en situation de maintenir le rythme, d'augmenter la cadence. Et c'est ce que nous faisons depuis le début avec le Comité international olympique, avec les équipes, avec les fédérations internationales. Et c'est ce que nous avons fait également en lançant un appel à l'ensemble des CNO du monde pour venir découvrir ce que l'Afrique s'est donné de meilleur en 2026.
Merci beaucoup, Ibrahim Awad.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, Ibrahim Awad en exclusivité pour RFI. Encore une fois, merci à Christophe Diremzian. Décidément, on n'a fait que le remercier durant cette émission. Un petit peu le GOAT, oui. Quand ça concerne les Jeux Olympiques, de toute façon, oui. Vous cherchez un GOAT, c'est Christophe Diremzian. Karim Baldé, revenons sérieux de la pression, nous disait Ibrahim Awad, puisque maintenant Kirsty Coventry est présidente du CIO, l'Afrique va aussi être beaucoup plus en avant. En tout cas, on l'espère. Vous comprenez ce côté pression, faut pas se rater. Alors évidemment, on souhaite à personne de se rater, mais là, c'est vrai que maintenant, là, vous avez vraiment toute la lumière du monde sur vous.
Bien sûr, parce qu'on pardonnera beaucoup moins les problèmes d'organisation à Dakar qu'à d'autres villes dans le monde pour un même événement. C'est le cas aussi du Rwanda avec les mondiaux de cyclisme sur route à venir. Et c'est aussi une pression pour l'Afrique subsaharienne, d'une manière générale, parce qu'on parlait des villes candidates potentielles. L'Afrique du Sud, le Cap, ça peut être le Caire, ça peut être Casablanca, mais on parle jamais de l'Afrique subsaharienne, donc tout
une zone blanche
du Sahara, ouais. Et au nord de l'Afrique du Sud, grosso modo. Et donc, pour cette partie-là de l'Afrique, c'est une grosse pression.
Kevin Bernardi, vous avez le mot de la fin assez rapidement. Les JOJ de Dakar 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse, ça peut être une rampe de lancement pour tout un continent, pour devenir crédible à l'organisation de grands Jeux Olympiques, si je peux m'exprimer ainsi.
Ah, ça peut être un tremplin absolument formidable, mais c'est vrai que la qualité de l'organisation sera particulièrement scrutée par le CIO, par les fédérations internationales. Je prends par exemple un exemple très rapide, mais en 2010, l'Inde avait organisé les Jeux du Commonwealth, ça avait été un fiasco, et pendant des années, l'Inde avait été court-circuitée véritablement par le CIO dans sa volonté de candidater, le CIO considérant que l'Inde n'était toujours pas prête à accueillir l'événement. Donc là, ça va être évidemment un événement qui sera particulièrement scruté.
On va le scruter. Merci beaucoup Kevin Bernardi. L'heure tourne, Mondial Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Je remercie Claude Battista à la réalisation. C'est tout ça m'a aidé à préparer l'émission. Excellente soirée à tous. Bye bye.